Oui, alors, la barge russe, qui est tous les jours, avec Johnny Chirbeck, qui parle de philosophie, d'actualité, en soi, assez intéressant, n'est-ce pas? Et par quinzaine, donc, le mercredi soir, il y a The Russian Fortune, à 21h, 21h30 même, avec Helmut Schwartz. C'est essentiellement musical, n'est-ce pas? Et il fait quelques à-propos avec la barge russe, Johnny Chirbeck. C'est deux compères travaillent ensemble. Ils sont l'un pour l'autre et l'autre pour un, n'est-ce pas? Leurs émotions peuvent aller de pair, mais très, très rarement, je dirais. L'une peut aller sans l'autre, et l'autre aller sans l'autre. Donc, barge russe, 10:35. Seconde considération, poursuivre aux considérations inactuelles et intempestives qu'on a pu voir hier avec le professeur Schmidbly. Professeur Schmidbly, c'est à vous. Oui, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Johnny Chirbeck. Donc, je vais continuer cette seconde interprétation, considération intempestive qu'il a écrit aussi en 1874. Il est donc possible de vivre sans presque se souvenir. Alors, avant, ben, je vous demande pardon, Johnny Chirbeck. Avant de commencer par ça, je vais vous lire un extrait, oui, de l'utilité et des inconvénients de l'histoire, qui est donc de la considération inactuelle numéro 2, qui en fait paraît juste avant celle-ci, qui est la numéro 3, mais qui est la première des considérations intempestives. J'espère que vous comprenez. Et bien sûr, alors voilà, je vous dis l'extrait que j'ai lu, c'est parce que c'est par rapport à l'historicité. Oui, c'est très, très intéressant. Or, tout passé vaut d'être condamné. Est-il écrit dans « De l'utilité et des inconvénients de l'histoire ?» Car tout ce qui relève de l'homme a toujours été soumis à la puissance et à la faiblesse humaine. Et là, on voit une espèce de dégoût de l'homme pour une naissance dans sa tête inconsciente du surhomme à Friedrich Nietzsche. Car tout ce qui naît, mérite de périr. Aussi vaudrait-il mieux que rien ne naquît. Il faut beaucoup de force pour pouvoir vivre et oublier que vivre et être injuste ne font qu'un. Il parle de Luther, le réformateur, réforme. Puisqu'en effet, nous sommes le fruit de générations antérieures. Nous sommes aussi le fruit de leurs égarements, de leurs passions, de leurs erreurs, voire de leurs crimes. Et là, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier par rapport à ce proverbe hindou, qu'on a en gros ce qu'on mérite selon les générations. Les handicaps les plus durs sont dus, des éducations les plus faibles sont dues à l'éducation. L'éducation des parents, mais qui ont peut-être eux aussi reçu une éducation similaire. Voyez-vous, tout, c'est un amalgame. Et voilà. Je dis que ce n'était pas facile, mais attends, à l'époque, hier d'ailleurs. Oui. Donc je vais continuer cette fois-ci avec la seconde considération intempestive en 1874. Il est donc possible de vivre sans presque se souvenir, de vivre heureux, à l'exemple de l'animal, mais il est absolument impossible de vivre sans oublier. Oui, on peut vivre, on est obligé d'oublier. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique qui nuit à l'être vivant, n'est-ce pas ? Et finit par l'anéantir, qu'il s'agisse d'un homme, d'un peuple ou d'une civilisation. Oui. Ensuite, la sérénité, la bonne conscience, l'activité joyeuse, la confiance en l'avenir, tout cela dépend chez l'individu comme chez le peuple de l'existence d'une ligne de démarcation qui sépare ce qui est clair, ce que l'on peut embrasser du regard, de ce qui est obscur et hors de vue, dépend de la faculté d'oublier au bon moment, aussi bien que lorsque cela est nécessaire. De se souvenir au bon moment dépend de l'instinct vigoureux que l'on met à sentir si et quand il est nécessaire de voir des choses au point de vue historique. Si et quand il est nécessaire de voir les choses au point de vue non historique. On va voir ça tout de suite, ce qu'il appelle par non-historique et historique. Et voici précisément la proposition que le lecteur est invité à considérer. Le point de vue historique, aussi bien que le point de vue non-historique, sont nécessaires à la santé d'un individu, d'un peuple et d'une civilisation. Et là, j'ai noté, n'est-ce pas, déséquilibré, car sans repère temporel. Oui, par rapport à l'historicité. Ce qui est important de savoir ici, c'est le... au fait non historique. J'y arrive. Chacun voudra commencer ici par faire une observation. Les connaissances et les sentiments historiques d'un homme peuvent être très limités, monsieur. Son horizon peut être étroit. Dans chaque jugement, il pourra placer une injustice. Pour chaque conception, il pourra commettre l'erreur de croire qu'il est le premier à la formuler. Malgré toutes les injustices et toutes les erreurs, il gardera son insurmontable verdeur et sa santé réjouira tous les yeux. Et tout près de lui, celui qui est infiniment plus juste et plus savant s'étiolera et ira à sa ruine, parce que les lignes de son horizon sont instables et se déplacent toujours à nouveau, le mouvement. Et là, il parle de philosophe, en réalité. Il parlait de celui qui faisait le beau et qui disait un mot de première éclat et que tous les yeux, ça fallait sur ce visage, sur cette silhouette. Alors que l'autre, à côté, prompt philosophe, lui, il passe pour un cutéreux. Alors, en réalité, c'est le contraire. Oui. Ce sont les vents de la raison, cette fois. Oui. La faculté de pouvoir sentir en une certaine mesure, d'une façon non historique, devra donc être tenue par nous pour la faculté la plus importante, pour une faculté primordiale, en tant qu'elle renferme le fondement sur lequel peut seul s'édifier quelque chose de solide. Ce qui est non historique ressemble à une atmosphère ambiante, où seul peut s'engendrer la vie, pour disparaître de nouveau avec l'anéantissement de cette atmosphère. À vrai dire, l'homme ne devient homme que lorsqu'il arrive en pensant, en repensant, en comparant, en séparant et en réunissant, à restreindre cet élément non historique, en analysant, d'autres termes. Et là, j'ai noté, n'est-ce pas, l'atmosphère non historique est remplacée par le sous-homme. Ah non, c'est pas le sur-homme, là c'est le sous-homme. L'atmosphère non historique est aujourd'hui donc remplacée. Donc l'atmosphère non historique qui appartient plus à l'aspect surhomme de chacun de nous. Nous sommes encore surhommes dans cet aspect non historique. Et l'aspect historique vient subtiliser notre état de surhomme à le restant à l'état d'homme, voire de sous-homme. Et le sous-homme, donc, et voilà, c'est l'aspect non historique où là, c'est ce moment où quelque chose va jaillir. C'est tout le temps. Et quelque chose va jaillir, une idée, une compréhension. Et avant que cette idée, cette compréhension soit conditionné, contrôlé par une consommation intempestive de l'actualité. Eh bien, c'est ça. Eh bien, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est remplacé par le sous-homme et son ennui, qu'il substitue dans l'illusion de son téléphone portable. Oui, c'est horrible. Mais c'est juste ce que je vous dis. C'est complètement juste. Et sauf que maintenant, tout le monde a un téléphone portable. Et tout le monde canote ces petits trucs qui ne servent à rien. Oui. Bon, bien sûr, il y a les gens qui s'en servent pour le tram. Bon, d'accord. Cela, je ne parle pas de tous les instants non plus. Bien sûr que non, mais tout le monde est contre. Depuis que je n'ai pas de téléphone portable, mais vous, j'ai vu que vous en avez un. Oui, et c'est vrai que depuis que moi j'en ai un, c'est vrai que des fois je regarde alors que je n'ai pas besoin. C'est que... Mais je le fais de moins en moins parce que... Enfin, c'est vrai que ça sert à rien et je me sens con, en fait. Oui, bah très bien, mais c'est ça. Mais les gens s'en rendent pas compte qu'ils ont l'air cons. Eh bien, ils préfèrent regarder les messages qu'ils ont déjà lus 30 000 fois. Bref. Dans la nuée qui l'enveloppe, naît alors un rayon de claire lumière. Voilà, je vous disais. Ce moment où doit naître la création. Et il possède la force d'utiliser ce qui est passé en vue de la vie pour transformer les événements en histoire. Mais lorsque les souvenirs historiques deviennent trop écrasants, l'homme cesse de nouveau d'être. Et s'il n'avait pas possédé cette ambiance non historique, il n'aurait jamais commencé d'être. Exactement. Il n'aurait jamais osé commencer. sans cette lueur, sans cet esprit de création, il n'aurait rien fait. Il serait comme une chèvre, un mouton, n'est-ce pas? Oui. Où y a-t-il des actes que l'homme eût été capable d'accomplir sans être enveloppé d'abord de cette nuée non historique?
Thank you.
On a pu goûter Touchstown de Stan Getz, mais cette fois en 33 tours. Oui, c'était très bien vu d'ailleurs. Hier, vous avez passé en version 45 tours, et cette fois en 33 tours, c'était très bien vu. Johnny Tibbeck, merci beaucoup. Donc je continue. Celui qui demanderait à ses amis s'il serait tenté de revivre les 10 ou 20 dernières années de sa vie, apprendrait facilement à connaître lequel d'entre eux est préparé à ce point de vue supra-historique. Il est en vrai qu'ils répondront tous non, mais ce non, ils le motiveront de façon différente. Les uns espéreront peut-être avec confiance que les 20 prochaines années seront meilleures. Nous voulons les appeler des hommes historiques. Un regard jeté dans le passé les pousse à préjuger de l'avenir, leur donne le courage de lutter encore avec la vie, fait naître en eux l'espoir que le bien finira par venir, que le bonheur gîte derrière la montagne dont ils s'approchent. Ces hommes historiques s'imaginent que le sens de la vie leur apparaîtra en mesure qu'ils apercevront le développement de celle-ci. Ils regardent en arrière pour comprendre le présent, par la contemplation du passé, pour apprendre à désirer l'avenir avec plus de violence. Ils ne savent pas combien ils pensent et agissent d'une façon non historique, malgré leur histoire et combien leurs études historiques, au lieu d'être au service de la connaissance pure. Ouais, non, vu que j'ai passé 10 années de merde, les 10 prochaines seront pareilles. Eh bien non, c'est une erreur. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Mais non, c'est maintenant que ça doit changer. Je ne sais pas si j'étais... J'ai eu un exemple une fois, quelqu'un se demandait, il se dit, oh, mes parents, en fait, ils ne voulaient pas de moi. Non, je suis arrivé à un moment historique, pendant une guerre, ces gens ne voulaient pas de moi. Mes parents, en fait, je suis un accident. Et je lui ai dit, mais bien sûr que non, cher ami, bien sûr que non. Vous êtes né l'année de la fin de la guerre. Vous étiez au contraire cette lueur, cette espérance qui faisait naître, qui était dans chacun de nous, mais que tout le monde ignorait peut-être, que tous ceux qui n'étaient pas conscients d'être un surhomme peut-être déjà en 44. Oui, c'était un ami, oui. Par contre, c'est ça dans les années 70. Mais bien au contraire, c'était une lueur d'espérance, sa naissance. Et lui a été convaincu le contraire. Mais bien sûr que non. C'est un conditionnement aussi pour lui. Ah, c'est un exemple que je vous donne. Combien ils pensent et agissent d'une façon non historique malgré leur histoire. La négation de l'homme supra-historique ne voit pas le salut dans le développement, mais considère au contraire que le monde est terminé et atteint sa fin à chaque moment particulier. Et là, vous avez l'anti-moment non historique, en réalité. Mais laissons les hommes supra-historiques à leur dégoût et à leur sagesse. À ces hommes qui ne pensent qu'à l'historique. Bon, ces gens ne veulent pas progresser dans la vie, tant pis pour eux. Il se peut que notre appréciation du développement historique ne soit qu'un préjugé occidental, exactement. Pourvu que dans les limites de ce préjugé, nous progressions et nous ne nous arrêtions pas en route. Pourvu que nous apprenions toujours mieux à faire de l'histoire en vue de la vie. Exactement. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Les supra-historiques possèdent plus de... Et pour qu'il n'y ait point de doute sur le sens... Maintenant, je me sens mieux, disons. L'histoire, considérée comme science pure, Je reprends. L'histoire, considérée comme science pure, devenue souveraine, serait pour l'humanité une sorte de conclusion et de bilan de la vie. C'est que il s'est passé quelque chose, bon ben voilà, c'est chose faite, et ça se. Donc quand il arrive ça, eh bien c'est ça qui doit se passer. Eh bien oui, il n'y a plus de phénomène inouï, il n'y a plus rien, c'est comme ça, c'est l'histoire. Il n'y a plus de non-histoire. La culture historique, non, par contre, n'est bienfaisante et pleine de promesses pour l'avenir que lorsqu'elle côtoie un puissant et nouveau courant de la vie. Une civilisation en train de se former, donc uniquement lorsqu'elle est dominée et conduite par une puissance supérieure et qu'elle ne domine et ne conduit pas elle-même. Nous devons faire ici un peu à l'occidentalisation. Mais quelque chose se crée dans une civilisation, donc on oublie l'histoire, on s'ouvre à quelque chose, mais on reste conditionné toujours pour le contrôle et pour la consommation. L'histoire, donc, pour autant qu'elle est placée au service de la vie, selon Nietzsche, bien sûr, j'agrémente, je suis d'accord avec Nietzsche, mais je suis aussi ouvert à d'autres propositions, à d'autres interprétations. Bien sûr, écoutez, Johnny Tiebag, vous êtes d'ailleurs très doué là-dedans, continuez vos interprétations et... Oui, merci. Oui, bien sûr. À cause de cela, l'histoire, pourtant qu'elle est placée au service de la vie, se trouve au service d'une puissance non historique. Bien sûr, la vie n'appartient à rien. La vie prend toujours les devants. La vie, on ne peut pas maintenir la vie. Voilà qui est dit. Il y a Malcolm, Jurassic Park. Voilà. Et à cause de cela, dans cet état de subordination, elle ne pourra et ne devra jamais être une science pure. Ce n'est pas possible. La phénoménologie, par exemple, ce n'est pas une science, c'est une analyse du phénomène inouï, de Balzac, phénomène inouï, chef-d'œuvre inconnu, oui. Mais la question de savoir jusqu'à quel point la vie a besoin, d'une façon générale, des services de l'histoire. C'est là un des problèmes les plus élevés, un des plus grands intérêts de la vie, car il s'agit de la santé d'un homme, d'un peuple, d'une civilisation. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais non, c'est la vie. Quand l'histoire prend une prédominance trop grande, la vie s'émiette et dégénère, et en fin de compte, l'histoire elle-même pâtit de cette dégénérescence. Vous savez, actuellement, nous voyons la pollution, l'alimentation. Et il y a des... Donc voilà, ce qui va se passer en 2024, il fera 50 degrés à l'ombre à Paris, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce que la nature nous réserve? On ne sait pas. Et c'est peut-être là-dessus que comptent justement ces souilleurs de la planète. C'est peut-être eux qui ont raison, comme dit Nietzsche, d'une autre façon. Bien sûr. C'est... Non, je fais la cuisine, n'est-ce pas, en même temps. Donc, oui, bah, Johnny Tiebag, il n'est pas là. Voilà. C'est...
Voilà, je suis revenu maintenant. Merci, professeur Schmidli. Donc, on a pu écouter Sunken Treasure, donc le trésor englouti, par Jill Evans, de son album Out of Cool. Oui, donc je continue. Cette sursaturation d'une époque par l'histoire sera hostile à la vie et lui sera dangereuse de cinq manières. L'excès des études historiques engendre le contraste analysé plus haut entre l'être intime et le monde extérieur. Donc, le monde intérieur, le monde du surhomme, et le monde extérieur, le monde du sous-homme, on pourrait dire, enfin, le monde des rencontres, comme vous dites si bien, Johnny Zivek, et affaiblit ainsi la personnalité. Affaiblit pourquoi, comment? Par le conditionnement, la consommation. Et bien sûr, c'est contrôlé tout ça. Oui. C'est contrôlé par qui, par quoi? Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de conspiration. Ça a toujours été comme ça. L'excès des études historiques implante la croyance toujours nuisible à la caducité de l'espèce humaine. L'excès des études historiques, soit dangereux, le scepticisme. Ah oui, l'excès des études historiques, encore une fois, développe dans une époque un état d'esprit dangereux. Donc, le être fermé d'esprit, c'est ça que ça signifie. Et qu'on naît le scepticisme, et cet état d'esprit plus dangereux encore, le cynisme. On est cynique, c'est sceptique, on ne sait pas ce qui va arriver, on est cynique, non, ça ne sert à rien de le faire, on va se planter. Voilà. Et ainsi, l'époque s'achemine toujours plus vers une pratique sage et égoïste qui finit par paralyser la force vitale et la détruire. Oui, on détruit ce pourquoi, l'instinct, cet instinct de création, comme nous disions plus tôt. De non-historicité. Non-historicité, ce moment qui n'appartient à rien. Eh bien, c'est détruit. Merci l'occidentalisation. Merci l'américanisation. Merci l'hollywoodinisation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je dis merci, mais c'est pas. C'est faux cul. C'est ironique. Pas faux cul, mais ironique. Ouais, merci. Et ainsi, l'époque s'achemine toujours plus vers une pratique sage et égoïste qui finit par paralyser la force vitale et la détruire. Donc là, c'est l'individualisme. Qui commence à dépérir, j'ai l'impression, de ces temps qui courent. Mais merci l'individualisation qui peut rendre l'espèce humaine telle qu'elle la voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon? Voilà. Revenons cependant à notre première affirmation. L'homme moderne souffre d'un affaiblissement de sa personnalité. Nous sommes en 1874. Ne voyez-vous pas, ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, en 2024, la même chose se produit. La même chose s'est produite depuis 150 ans. C'est ce qui arrive. Oui. L'homme moderne, c'est nous, bien sûr. La personne moderne, l'entité moderne, souffre d'un affaiblissement de sa personnalité. À l'époque, elle souffrait. Maintenant, elle est affaiblie complètement. Merci SFR, merci Bouygues. Pas de quoi, je vous en prie. Eh bien, par ses maîtres dans l'art de l'histoire, se fait offrir sans cesse le spectacle d'une exposition universelle. Ah, non, je vais ouvrir, parce que c'est comme ça. J'arrive au milieu d'un carnaval cosmopolite. L'homme moderne, en soi.
Poste 746, s'il vous plaît.
Un instant, je vous prie.
Bureau du directeur. Oui, c'est Monsieur Cole. J'ai le matériel demandé et j'appelle pour un rendez-vous.
Je suis navré, Monsieur Cole, mais le directeur est parti. Nous vous appellerons demain matin. Puis-je avoir votre téléphone, s'il vous plaît?
Non, je suis dans une cabine téléphonique. Je n'ai pas de téléphone personnel.
Il est devenu le spectateur jouissant et errant. Qui donc? L'homme moderne. Oui, c'est le spectacle
la société du spectacle, nous sommes dedans. Transporté dans des conditions que de grandes guerres ou de grandes révolutions seraient à peine changées durant l'instant. Voilà, regardez. Bon, je ne sais pas si ça n'a pas toujours été comme ça, mais la guerre en Ukraine. Bon. À part des gens qui se lèvent contre ça, est-ce qu'ils seraient prêts à aller jusqu'au bout de leurs idées, tant soit-elle celle-ci, de lâcher leur vie quotidienne occidentale et d'aller prendre un fusil ou je ne sais quoi et d'aller se battre dans les tranchées? Non, ils veulent que ça s'arrête. Oui, forcément. Mais ils veulent pas se mouiller de trop, quoi. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est des choses... Je comprends cette démarche, quoique pas trop. On peut parler, bien sûr, des accointances, de comment sont faites les choses, par quel bouleversement historique, justement. Mais ils veulent rentrer, ces personnes, dans une historicité. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que machin a fait truc à la guerre de je sais pas quoi que ça va se refaire. Mais non, absolument pas. L'effet du chaos. Il y a un Malcolm, Jurassic Park. Hollywood. Merci. Merci à lui. En tout cas, ça, je crois que c'est pas totalement faux, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, par se mettre dans l'histoire, un spectacle, une exposition. J'ai déjà vu. Merci. Oui. Nous avons vu dans ses considérations intempestives que Nietzsche va contre la philosophie, c'est pas dans le 3, considération intempestive, et le second considération intempestive, il donne son point de vue vraiment sur la philosophie. À une époque qui souffre des excès de l'instruction générale, 1874, dans quelle situation, aujourd'hui ça pourrait être Internet, n'est-ce pas? Dans quelle situation monstrueuse, artificielle et en tous les cas indigne d'elle-même, se trouve la plus véridique de toutes les sciences, cette divinité honnête et nue, la philosophie? Dans un pareil monde d'uniformité extérieure et forcée, elle reste le monologue savant du promeneur solitaire, proie du hasard chez l'individu, secret de cabinet ou bavardage puéril entre enfants et vieillards académiques. Personne n'ose réaliser par lui-même la loi de la philosophie. Personne ne vit en philosophe, ne vit en philosophe. Avec cette simple fidélité virile qui forçait un homme de l'Antiquité, où qu'il fût, quoi qu'il fît, à se comporter en stoïcien, de qu'il avait une fois juré fidélité à la Stoa. Toute philosophie moderne est politique ou policière. Elle est réduite à une apparence savante par les gouvernements, les églises, les mœurs et les lâchetés des hommes. Oui, oui. On s'en tient à un soupir de regret et à la connaissance du passé. Voilà. Disparition de la philosophie. On va être conditionné par un fait historique plutôt que de s'ouvrir à la création du moment. À la philosophie, à la sagesse. C'est terminé. Bon, ce n'est pas terminé, bien sûr que non. Mais cet apprentissage, comme l'a vu Nietzsche, et comme je vous l'ai dit aussi, cet apprentissage en études secondaires, en cycle secondaire, ça annonce le début de rien du tout et la fin de la philosophie. Exactement. Et pour terminer...
Right, here he goes, here he comes, here he goes.
Non, le but de l'humanité ne peut pas être au bout de ses destinées. Il ne peut s'atteindre que dans ses types les plus élevés. Le but de l'humanité, se dépasser. C'est ça, le but de l'humanité. Et là, ai-je à noter, l'aplatissement des cycles fait les sous-hommes. Alors, si nous avons bien écouté les dernières chroniques Barjois, qu'est-ce que le cycle, l'eschatologie? plutôt religieuse, convoite une sous-humanité afin qu'elle soit, peut-être, selon une interprétation, qu'elle soit conditionnée pour un meilleur contrôle et pour la conservation.
Et qu'elle soit conforme.
Oui, bien sûr, évidemment.
La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur JTFM.